Je lis de l'Espinasse, lettre à Monsieur de Guibert, lettre 17. Lundi 6 septembre 1774. Votre silence me fait mal. Je ne vous accuse point, mais je souffre. Et j'ai peine à me persuader qu'avec un intérêt égal à celui qui m'anime, je fusse un mois sans entendre parler de vous. Mais, mon Dieu, dites-moi, quel prix mettez-vous donc à l'amitié si le mouvement vous en sépare tout à fait? Ah, que vous êtes heureux! Un roi, un empereur, des troupes, des camps vous font oublier ceux qui vous aiment. Et, ce qui est peut-être plus près encore d'une âme sensible, les personnes que votre amitié soutient et console. Non, je ne vous cherche point de tort, et je voudrais même que votre oubli ne m'en parût pas un. Je voudrais trouver en moi la disposition qui fait tout approuver ou tout souffrir sans se plaindre. Voilà ma 5e lettre sans réponse. Je vous demande combien il y a de personnes avec qui vous feriez de pareilles avances. Je ne sais pourquoi, je m'étais persuadée que je recevrais de vos nouvelles de Breslau. Soit que vous reçussiez la lettre que je vous y ai adressée, soit qu'elle fût perdue. Mais mon espérance a été trompée. Oh, je vous hais de me faire connaître l'espérance, la crainte, la peine, le plaisir. Je n'avais pas besoin de tous ces mouvements. Que ne me laissiez-vous en repos? Mon âme n'avait pas besoin d'aimer. Elle était remplie d'un sentiment tendre, profond, partagé, répandu, mais douloureux cependant. Et c'est ce mouvement qui m'a approché de vous. Vous ne deviez que me plaire, et vous m'avez touché. En me consolant, vous m'avez attaché à vous, et ce qu'il y a de bien singulier, c'est que le bien que vous m'avez fait, que j'ai reçu sans y donner mon consentement, loin de me rendre facile et souple, comme le sont les gens qui reçoivent grâce, semble au contraire m'avoir acquis le droit d'être exigeante sur votre amitié. Vous, qui voyez de haut et qui voyez profondément, dites-moi si c'est là le mouvement d'une âme ingrate, ou peut-être trop sensible. Ce que vous me direz, je le croirai. Si je voulais, ou plutôt si je n'étais pas inquiète et mécontente de votre silence, je vous ferais une querelle que vous entendriez à merveille, à laquelle vous répondriez avec plaisir, et votre justification serait sans doute un nouveau crime. Mais vous êtes si loin, vous êtes si pressé, si occupé, et pire que cela, si enivré. Ce mot me venge, mais il ne me contente pas. Revenez donc. Je vois le temps s'écouler avec un plaisir que je ne puis exprimer. On dit que le passé n'est rien. Pour moi, j'en suis accablé. Et c'est justement parce que j'ai beaucoup souffert qu'il m'est affreux de souffrir encore. Mais, mon Dieu, il y a de la folie à me promettre quelque douceur, quelque consolation de votre amitié. Vous avez acquis tant d'idées nouvelles, votre âme a été agitée de tant de sentiments divers, qu'il ne restera pas trace de l'impression que vous aviez reçue par mon malheur et ma confiance. Eh bien, venez toujours. J'en jugerai et je verrai clair, car l'illusion n'est point à l'usage des malheureux. D'ailleurs, vous avez autant de franchise que j'ai de vérité. Nous ne nous tromperons pas un moment. Venez donc, et ne rapportez pas de votre voyage l'impression de tristesse que le chevalier a apportée d'Italie. Il parle de tout ce qu'il a vu sans plaisir, et tout ce qu'il voit ne lui en fait pas davantage. En un mot, je ne changerai pas ma disposition contre la sienne. Et cependant, je passe ma vie dans les convulsions de la crainte et de la douleur. Mais aussi ce que j'attends, ce que je désire, ce que j'obtiens, ce qu'on me donne, a un tel prix pour mon âme. Je vis, j'existe si fort, qu'il y a des moments où je me surprends à aimer à la folie jusqu'à mon malheur. Voyez si, en effet, je n'y dois pas tenir, s'il ne doit pas m'être cher. Il est cause que je vous connais, que je vous aime, que peut-être j'en aurai un ami de plus, car vous me le dites. Si j'avais été calme, raisonnable, froide, rien de tout cela ne serait arrivé. Je végéterais avec toutes les femmes qui jouent de l'éventail en causant du jugement de M. de Morangier et de l'entrée de Mme la Comtesse de Provence à Paris. Oui, je le répète, je préfère mon malheur à tout ce que les gens du monde appellent bonheur ou plaisir. J'en mourrai peut-être, mais cela vaut mieux que de n'avoir jamais vécu. M'entendez-vous? Êtes-vous à mon ton? Auriez-vous oublié que vous avez été aussi malade et plus heureux que moi? Adieu. Je ne sais comment cela se fait. Je ne voulais vous écrire que 4 lignes, et mon plaisir m'a entraîné. Combien y a-t-il de personnes que vous aurez plus de plaisir à revoir que moi? Je m'en vais vous en donner la liste. Madame de, le chevalier d'Aguesseau, le comte de Breuil, le prince de Beauvau, monsieur de Rochambeau, etc., etc., etc. Mesdames de Beauvau, de Beauflers, de Rochambeau, de Martinville, etc., etc. Et puis le chevalier de Châtelux, et puis moi enfin, et à la fin. Eh bien, voyez la différence. Je n'en nommerai qu'un contre 10, mais le cœur ne se conduit pas d'après la justice. Il est despote et absolu. Je vous le pardonne, mais revenez. Lettre 18. Ce jeudi, septembre 1773. Après avoir attendu plus d'un mois de vos nouvelles, vous m'apprenez que vous avez été bien malade, et vous croyez rassurer mon amitié en me disant qu'il n'y a point d'inquiétude à avoir parce que la fièvre vous avait quitté la veille. De bonne foi, croyez-vous que sur cette assurance l'âme puisse se calmer? Hélas, je le vois trop. Vous me traitez comme les gens du monde qui se disent amis et qui ne sentent rien. Ils ne sont agités et occupés que de leur propre intérêt ou de leur sotte vanité. Mais, mon Dieu, je ne les critique point. Je m'afflige de ce que vous souffrez et de ce que je crains. Si vous saviez combien vous m'occupez douloureusement depuis un mois. Mais ce n'est pas de cela que je veux vous parler. C'est de votre santé et de votre retour. Au nom de l'amitié, ne faites point de folie, dormez, reposez-vous, et pour arriver plus tôt, ne risquez pas de n'arriver jamais. Du moins, aurez-vous eu le soin de me donner de vos nouvelles avant que de quitter Breslau? Vous serez accablé de mes lettres en arrivant à Vienne. N'oubliez pas de m'en accuser la réception, et pour cause, celle-ci est la 5e dont vous avez à me parler. Ce n'était pas ma lettre que vous envoyiez chercher à la poste de Breslau. Voyez si je suis bonne et généreuse. J'aurais voulu qu'elle pût se métamorphoser en celle que vous attendiez et dont votre âme avait besoin. Je ne sais à quoi cela tient, mais vous êtes l'homme du monde à qui j'ai le moins d'envie de plaire, avec qui je veuille le moins faire valoir ce que vous appelez mes attentions. C'est que je ne veux point de votre reconnaissance. C'est un sentiment que j'aborde. Je voudrais bien me tromper, mais au ton de votre lettre, je vois que vous étiez bien faible, bien pâle et bien abattu. Je meurs de crainte que, dans cette disposition, vous n'ayez pas songé à m'écrire. Si cela est vrai, vous serez bien coupable. Sachez-moi gré de ne point vous faire de reproches aujourd'hui. Je pourrais pourtant, avec justice, vous en accabler. Je suis ravi que vous ayez été content de votre voyage. Monsieur d'Alembert n'a pas eu de nouvelles du roi depuis son retour de Silésie. Adieu, il faut couper court. Si je vous parlais de vous, j'aurais trop de choses à vous dire. Et si je vous parlais de moi, cela serait trop triste pour un convalescent. Monsieur d'Alembert vous attend avec impatience. Le chevalier de Châteauluc s'est absorbé par les comédies de la chevrette, mais son accent est froid et triste. Adieu. Vous croyez donc que je vous reverrai dans un mois? Il y a trop loin pour en sentir du plaisir. Lettre 19, 1773. Me voilà. Le courage m'a manqué. Quand je n'ai pas ce que j'aime, je préfère être seule. Je cause alors avec mes amis, avec plus d'intimité et d'abandon. Je viens d'écrire 3 heures et j'en suis aveugle, mais non pas ennuyée. Madame de Boufflers m'a permis de vous demander une copie de sa lettre. Apportez-la-moi demain, je vous en prie. Apportez-moi la suite de votre voyage qui me fait un plaisir infini. Est-ce le matin, est-ce le soir que je dois vous voir? J'aimerais le matin parce que c'est plus tôt et le soir parce que c'est plus longtemps. Enfin, j'aimerais ce que vous voudrez bien m'accorder. Bonsoir. Je ne me suis pas endormie la nuit dernière. Lettre 20, 8h30, 1773. Mon ami, je ne vous verrai pas, et vous me direz que ce n'est pas votre faute. Mais si vous aviez eu la millième partie du désir que j'ai de vous voir, vous seriez là, je serais heureuse. Non, j'ai tort, je souffrirai, mais je n'envierai pas les plaisirs du ciel. Mon ami, je vous aime comme il faut aimer, avec excès, avec folie, transport et désespoir. Tous ces jours passés, vous avez mis mon âme à la torture. Je vous ai vu ce matin, j'ai tout oublié. Et il me semblait que je ne faisais pas assez pour vous, en vous aimant de toute mon âme, en étant dans la disposition de vivre et de mourir pour vous. Vous valez mieux que tout cela. Oui. Si je ne savais que vous aimez, ce ne serait rien, en effet. Car y a-t-il rien de plus doux et de plus naturel que d'aimer à la folie ce qui est parfaitement aimable? Mais, mon ami, je fais mieux qu'aimer. Je sais souffrir. Je saurais renoncer à mon plaisir pour votre bonheur. Mais voilà quelqu'un qui vient troubler la satisfaction que j'ai à vous prouver que je vous aime. Savez-vous pourquoi je vous écris? C'est parce que cela me plaît. Vous ne vous en seriez jamais douté si je ne vous l'avais dit. Mais mon Dieu, où êtes-vous? Si vous avez du bonheur, je ne dois plus me plaindre de ce que vous m'enlevez le mien. Lettre 21, 1774. Bonjour, mon ami. Avez-vous dormi? Comment êtes-vous? Vous verrai-je? Ah, ne m'ôtez rien. Le temps est si court, et je mets tant de prix à celui que j'emploie à vous voir. Mon ami, je n'ai plus d'opium dans la tête, ni dans le sang. J'y ai pire que cela. J'y ai ce qui ferait bénir le ciel, chérir la vie, si ce qu'on aime était animé du même mouvement. Mais, mon Dieu, ce qu'on aime est justement fait pour faire le tourment et le désespoir d'une âme sensible. Bonjour, je veux vous voir. Vous auriez dû venir dîner avec moi chez Madame Geoffrin. Je n'osais pas vous le dire hier au soir. Oui, vous devriez m'aimer à la folie. Je n'exige rien, je pardonne tout, et je n'ai jamais un mouvement d'humeur, mon ami. Je suis parfaite, car je vous aime en perfection. Lettre 22. 4 heures, 1774. Vous n'êtes pas parti, du moins je l'espère. Voici ce que vous aurez dit. Il fait un temps affreux. J'irai demain à la campagne. J'y serai mené. Je la verrai après dîner. J'irai passer la soirée chez Madame de V. Mon ami, si vous avez raisonné ainsi, M. d'Alembert vous permettra de raisonner à l'avenir, et vous n'en serez pas réduit à faire et à ne faire que des connétables. Racine n'aurait pas voulu qu'on l'empêchât de faire des lettres sur les visionnaires, ni même son histoire de Port-Royal. Voilà les deux volumes. Si vous les perdez, je vous préviens que vous serez perdu dans l'opinion de M. d'Alembert. Voilà aussi Plutarque. Il est à moi. Mais si cela vous est égal, j'aimerais autant qu'il ne fût ni déchiré ni perdu. J'ai vu à la messe Madame de M. J'ai voulu lui parler. Sa figure, sa taille, justifieraient le goût le plus difficile et le plus délicat. Mais son ton, sa manière, ah, qu'ils sont repoussants. Ai-je tort? Mais son ami ne lui ressemble point. Oh, je le crois, et même je le désire. Ce mouvement est-il généreux, dites? Non, vous ne saurez jamais tout ce que me mande l'ambassadeur. Mais écoutez seulement ceci. Il dit qu'à en juger sur les apparences, M. de G a obtenu ce que M. de M et lui désireraient obtenir. Et puis il ajoute, « Je ne crains pas que ses yeux si perçants voient ces mots. Je consens que ceux de M lisent cette lettre, comme il lit dans votre âme, etc. » Et puis il ajoute encore sans plaisanterie, qui sont pleines de finesse et de gaieté. Il est assurément bien aimable, mais il mérite bien peu d'être aimé. Mon ami, vous me conseillez hier de ne vous point aimer. Est-ce moi ou vous que vous voudriez délivrer de ce malheur, dites? J'ai un remède infaillible. Combien il me sera doux si je puis penser que je fais quelque chose pour vous. Mon ami, cette âme qui ressemble au thermomètre qui est d'abord à la glace et puis au tempéré, et peu de temps après au climat brûlant de l'équateur, cette âme ainsi entraînée par une force irrésistible, a bien de la peine à se modérer et à se calmer. Elle vous désire, elle vous craint, elle vous aime, elle s'égare, et toujours elle est à vous et à ses regrets. Lettre 23, 1774. Mon ami, en rentrant hier au soir à minuit, j'ai trouvé votre lettre. Je ne m'attendais pas à cette bonne fortune. Mais ce qui m'afflige, c'est le nombre de jours qui se passent sans que je vous voie. Mon Dieu, si vous saviez ce que sont les jours, ce qu'est la vie dénuée de l'intérêt et du plaisir de vous voir. Mon ami, la dissipation, l'occupation, le mouvement vous suffisent, et pour moi, mon bonheur, c'est vous, ce n'est que vous. Je ne voudrais pas vivre si je ne devais vous voir et vous aimer tous les moments de ma vie. Donnez-moi de vos nouvelles et venez dîner demain chez le comte de C. Il m'a demandé de changer le dimanche en samedi. J'ai dit oui, mais venez-y, je vous en prie. Je devais dîner chez l'ambassadeur d'Espagne aujourd'hui. Je me suis fait excuser. Si vous aviez dû y être, je n'y aurais pas manqué. Bonjour. J'attends la lettre que vous m'avez promise. Je suis bien pressée. Lettre 24, 1774. Je cède aux besoins de mon cœur, mon ami. Je vous aime. Je sens autant de plaisir et de déchirement que si c'était la première et la dernière fois de ma vie que je prononcerais ces mots. Ah, pourquoi m'y avez-vous condamnée? Pourquoi y suis-je réduite? Vous saurez un jour. Hélas, vous m'entendrez. Il m'est affreux de n'être plus libre de souffrir pour vous et par vous. Est-ce assez vous aimer? Adieu, mon ami. Lettre 25. De tous les instants de ma vie, 1774. Mon ami, je souffre, je vous aime et je vous attends. Lettre 26, 1774. Mon ami, vous me faites éprouver qu'on aime mieux donner que payer ses dettes. J'ai là plusieurs lettres à répondre, et pour venir à elles, il faut que je commence à causer avec vous. Mon ami, m'avez-vous accordé, depuis hier au soir, une minute, deux minutes? Avez-vous dit « Elle souffre, elle m'aime, et j'ai à me reprocher une partie de ces mots » Ce n'est pas pour vous affliger, ni pour avoir des remords qu'il faut vous dire cela, mais c'est pour être bon, pour être indulgent, pour n'être pas furieux lorsqu'il échappe quelques cris à la douleur. Pour moi, j'ai pensé à vous, et même beaucoup, j'en ai été occupé. Mon Dieu, y eut-il jamais tant d'orgueil, tant de dédain, tant de mépris, tant d'injustice en un mot? L'assemblage et l'assortiment de tout ce qui peuple l'enfer et les petites maisons depuis 1000 siècles. Tout cela était hier au soir dans ma chambre, et les murs et les planchers n'en sont pas écroulés. Cela tient du prodige. Au milieu de tous les grimauds et de tous les cuistres, des sceaux, des pédants avec lesquels j'ai passé ma journée, je n'ai pensé qu'à vous et à vos folies. Je vous ai regretté, je vous ai désiré avec autant de passion que si vous étiez la créature la plus aimable et la plus raisonnable qui existât. Je ne peux pas m'expliquer le charme qui me lie à vous. Vous n'êtes pas mon ami. Vous ne pouvez pas le devenir. Je n'ai aucune sorte de confiance en vous. Vous m'avez fait le mal le plus profond et le plus aigu qui puisse affliger et déchirer une âme honnête. Vous me privez, peut-être pour jamais dans ce moment-ci, de la seule consolation que le ciel accordait aux jours qui me restent à vivre. Enfin, que vous dirais-je? Vous avez tout rempli. Le passé, le présent et l'avenir ne me présentent que douleurs, regrets et remords. Eh bien, mon ami, je pense, je juge tout cela, et je suis entraîné vers vous par un attrait, par un sentiment que j'aborde, mais qui a le pouvoir de la malédiction et de la fatalité. Vous faites bien de ne pas m'en tenir compte. Je n'ai pas le droit de rien exiger de vous, car mon souhait le plus ardent est que vous ne fussiez rien pour moi. Que diriez-vous de la disposition d'une malheureuse créature qui se montrerait à vous pour la première fois agitée et bouleversée par des sentiments si divers et si contraires? Vous la plaindriez, votre bon cœur s'animerait, vous voudriez secourir, soulager cet infortuné. Eh bien, mon ami, c'est moi. Et ce malheur, c'est vous qui le causez, et cette âme de feu et de douleur est de votre création. Ah, je vous crois encore comme Dieu. Vous devez bien vous repentir de votre ouvrage. En vérité, lorsque j'ai pris la plume, je ne savais pas un mot de ce que je vous dirais. Je voulais seulement vous dire de venir dîner demain mercredi chez Madame Geoffrin. Je voulais vous faire observer que vous seul, de tous mes amis, aviez la constance de me refuser et de me faire attendre ce que je désire vivement, le connétable, il est à moi, je pouvais vous le refuser. Et c'est moi qui vous persécute pour me le rendre. Oh mon Dieu, ni soin, ni intérêt, ni attention, ni envie de plaire, quelquefois de la bonté qui ressemble à la pitié. Et avec tout cela et sans tout cela, je vous aime à la folie. Plaignez-moi et ne me le dites pas. Rapportez-moi mes lettres. Oui. Lettre 27. 3 heures, 1774. Je ne vous ai pas répondu moi-même. Si vous m'aimez, cela vous aura inquiété, et je serai désolée de vous causer une peine que je pouvais éviter. J'étais dans un état d'angoisse qui ressemblait à l'agonie, et qui avait précédé un accès de larmes qui avait duré 4 heures. Non, jamais, jamais mon âme n'a senti un pareil désespoir. J'ai une espèce d'effroi qui égare ma raison. J'attends mercredi, et il me semble que la mort même n'est pas le remède suffisant à la perte que je crains. Je ne le sens que trop. Il ne faut point de courage pour mourir, mais il est affreux de vivre. Il est au-dessus de mes forces, de penser que peut-être ce que j'aime, ce qui m'aimait, ne m'entendra plus, ne viendra plus à mon secours. Il aura vu la mort avec horreur, parce que mon idée y était jointe. Il me disait le 10, « J'ai en moi de quoi vous faire oublier tout ce que je vous ai fait souffrir. » Et ce jour-là même, ce funeste accident l'est venu frapper. Ah, mon Dieu! Vous qui avez connu la passion, le désespoir, concevez-vous tout mon malheur? Plaignez-moi tant que je vivrai, mais gardez-vous de regretter jamais la créature la plus malheureuse et qui aura existé 8 jours dans un état de douleur où la pensée ne peut atteindre. Adieu. S'il faut que je vive, si ma sentence n'est pas prononcée, je trouverai encore de la douceur, du charme et de la consolation dans votre amitié. Me la conserverez-vous? Lettre 28. 1774. Moi, défiante à votre égard, songez donc avec quel abandon je me suis livrée à vous. Non seulement je n'ai mis ni défiance ni prudence dans ma conduite, mais je n'aurais pas même connu les regrets ni les remords si je n'avais compromis que mon bonheur. Ô mon ami, je ne sais si j'ai mieux aimé, mais celui qui a pu me rendre infidèle et coupable, celui pour qui je vis après avoir perdu l'objet et l'intérêt de tous mes moments, à coup sûr, c'est celui qui a eu le plus d'empire sur mon âme. C'est celui qui m'a ôté la liberté de vivre pour un autre et de mourir lorsqu'il ne me restait ni espérance ni désir. Sans doute, j'ai été retenue par le même charme qui m'avait entraînée vers vous, par ce charme tout-puissant attaché à votre présence, qui enivre mon âme, qui l'égare avec un tel excès, qu'il en efface jusqu'au souvenir de mes maux. Mon ami, avec 3 mots vous me créez une âme nouvelle, vous la remplissez d'un intérêt si vif, d'un sentiment si tendre et si profond, que j'en perds la faculté de me rappeler le passé et de prévoir l'avenir. Oui, mon ami, je vis tout en vous, j'existe parce que je vous aime, et cela est si vrai qu'il me paraît impossible de ne pas mourir quand j'aurai perdu l'espoir de vous voir. Le bonheur de vous avoir vu, le désir, l'attente de vous revoir m'aident et me soutiennent contre ma douleur. Hélas, que devenir lorsqu'au lieu de l'espérance, je n'aurai que le regret si douloureux de ne pas vous voir. Mon ami, avec vous je n'ai pas pu mourir. Sans vous, je ne peux ni ne veux vivre. Ah, si vous saviez ce que je souffre, Quel déchirement affreux mon cœur éprouve lorsque je suis abandonnée à moi-même, lorsque votre présence ou votre pensée ne me soutient plus. Ah, c'est alors que le souvenir de M. de Morin, devient un sentiment si actif, si pénétrant, que ma vie et mon sentiment me font horreur. J'abhorre l'égarement et la passion qui m'ont rendu si coupable, qui m'ont fait répandre du trouble et de la crainte dans cette âme sensible et qui était tout à moi. Mon ami, concevez-vous à quel point je vous aime? Vous faites diversion aux regrets et aux remords qui déchirent mon cœur. Hélas, il suffisait pour me délivrer d'une vie que je déteste, vous seul et ma douleur. Êtes tout ce qui me reste dans la nature entière. Je n'y ai plus d'intérêt, plus de liens, plus d'amis, je n'en ai pas besoin. Vous aimer, vous voir, ou cesser d'exister, voilà le dernier et l'unique vœu de mon âme. La vôtre ne me répond pas, je le sais, et je ne m'en plains point. Par une bizarrerie que je sens, mais que je ne saurais vous expliquer, je suis loin de désirer de retrouver en vous tout ce que j'ai perdu. C'en serait trop. Quelle créature a jamais mieux senti que moi le prix de la vie? N'est-ce pas assez que d'avoir béni et chéri la nature une fois? Combien de milliers d'hommes ont passé sur la terre sans avoir à lui rendre grâce? Oh, combien j'ai été aimée, une âme de feu, pleine d'énergie, qui avait tout jugé, tout apprécié, et qui est revenue et dégoûtée de tout, s'était abandonnée aux besoins et au plaisir d'aimer. Mon ami, voilà comme j'étais aimée. Plusieurs années s'étaient écoulées remplies du charme et de la douleur inséparables d'une passion aussi forte que profonde. Lorsque vous êtes venu verser un poison dans mon cœur, ravager mon âme par le trouble et le remords. Mon Dieu, que ne m'avez-vous point fait souffrir? Vous m'arrachiez mon sentiment, et je voyais que vous n'étiez pas à moi. Comprenez-vous toute l'horreur de cette situation? Comment trouve-t-on encore de la douceur à dire « Mon ami, je vous aime », mais avec tant de vérité et de tendresse qu'il n'est pas possible que votre âme soit froide en m'écoutant. Adieu. Vendredi après la poste. Vous êtes mécontent. Voyez si vous devez l'être. Quelle âme avez-vous jamais animée d'un sentiment plus tendre et plus fort? Mon ami, dans quel sens que vous regardiez et que vous jugiez mon âme? Je vous défie d'y rien trouver qui puisse vous mécontenter. Oh, j'en suis sûre, jamais vous n'avez été autant aimé. Mais, mon Dieu, ne me faites pas prononcer pourquoi je ne peux pas vous écrire où vous êtes. Je n'ose m'en avouer à moi-même la raison. C'est une pensée, un mouvement, auquel je ne veux pas m'arrêter. C'est un genre de supplice qui me fait horreur, qui m'humilie, et que je n'avais jamais connu. Vous me demandez comment je me trouvais de vous voir tous les jours. Oh non, ce n'est point une habitude, ce n'en pouvait jamais devenir une. Que ces couleurs sont froides, qu'elles sont monotones. Comment les comparer aux mouvements rapides et violents que nous font éprouver le nom et la présence de ce qu'on aime? Non, non. Je n'ai point été assez heureuse pour me surprendre dans l'illusion d'espérer que vous viendriez me voir et de vous attendre. Aussi n'ai-je point entendu ouvrir ni fermer ma porte. En effet, sans intérêt, sans désir, qu'importe ce qu'on voit, ce qu'on entend. Tout entière à mes regrets, je ne sens plus qu'un besoin, et je n'implore plus que vous et la mort. Vous soulagez mon cœur, vous le pénétrez d'un sentiment si tendre qu'il m'est doux de vivre tout le temps que je vous vois, mais il n'y a que la mort qui puisse me délivrer du malheur de votre absence. » Lettre 29, minuit, 1774. Vous avez donc oublié. Vous avez laissé là cette furie si folle et si méchante tout ensemble. Encore, si vous l'aviez laissée en enfer, elle ne se plaindrait pas. La chaleur et l'activité de ce séjour la font vivre. Mais la malheureuse a passé sa journée dans les limbes. Elle attendait un ange consolateur qui n'est point venu. Il faisait sans doute le bonheur et le plaisir de quelque créature céleste. Lui-même était enivré des plaisirs du ciel. Et, dans cette disposition, rien ne pouvait me rappeler à lui. Et si, en effet, il est aussi heureux, je souhaite du fond de mon âme que rien ne le ramène à moi. Car je suis assez injuste de détester son bonheur, et pour désirer que le repentir et les remords le poursuivent sans cesse. Je lui souhaite pire encore, c'est qu'il n'aime plus, et qu'il n'inspire désormais que de l'indifférence. Voilà les vœux, voilà le souhait de l'âme qui a le mieux aimé, et qui a le plus de besoin de s'éteindre pour jamais. Bonsoir. Lettre 30, minuit et demi, 1774. Je ne suis seule que dans ce moment. Je veux bien vite vous dire que je ne compte point sur vous pour aller chez Madame la Duchesse d'Anville. Vous me serez toujours agréable, mais rarement utile, et je voudrais bien pouvoir ajouter peu nécessaire. En voulant rassurer ma confiance, vous me prouvez à quel point ma défiance est justement fondée, car il me manque encore trois lettres, et nommément une où je vous parlais de Gonzalve. Gonzalve était le prénom de M. de Morat. Vous verrez que ces trois lettres sont encore dans un des côtés de votre portefeuille. Peut-être aussi sont-elles avec ce quatrième tome que je devais recevoir aujourd'hui. Je remarque que vous mettez votre plaisir à avoir des soins pour Madame de. Vous lui donnez, vous lui prêtez tout ce qui vous a fait plaisir. Et avec moi, c'est l'autre excès. L'oubli, la négligence, les refus. Il y a trois mois que vous m'aviez promis un livre qui est à vous et que j'ai emprunté d'un autre. Sans doute qu'il vaut bien mieux que cette manière si désobligeante tombe sur moi. Cela n'est que juste. Mais aussi, je ne me plains que de l'excès. Bonsoir. Si votre travail vous coûte votre nuit, vous devez avoir bien du regret aux visites inutiles qui ont rempli votre temps. Parmi les lettres que vous m'avez renvoyées, il y en a une qui n'est pas de moi, mais je jure de ne vous la rendre jamais. Lettre 31, 1774. Renvoyez-moi deux lettres anciennes. Ce ne sont pas celles de Cicéron ni de Pline que je vous demande. Je voudrais bien ne pas vous voir, ne plus vous voir. Un regret ne vaut-il donc pas mieux qu'un remords? Dans le moment où vous lisez ceci, je gage que vous avez déjà reçu un billet où l'on vous dit « Que sais-je ?» Eh mon Dieu, croyez-la. Rendez-lui le repos, et s'il est possible, soyez heureux. C'est le souhait, c'est le vœu, c'est le désir de la malheureuse créature qui a toujours sous les yeux cette inscription affreuse de la porte de l'enfer. En entrant ici, on laisse toute espérance. Non, je n'en ai plus, je n'en veux plus. Je devais m'anéantir le jour que je suis restée seule. Hélas, vous m'égarez et vous ne sauriez me consoler. Lettre 21, 1774. Bonjour, mon ami. Avez-vous dormi? Comment êtes-vous? Vous verrai-je? Ah, ne m'ôtez rien. Le temps est si court, et je mets tant de prix à celui que j'emploie à vous voir. Mon ami, je n'ai plus d'opium dans la tête, ni dans le sang. J'y ai pire que cela. J'y ai ce qui ferait bénir le ciel, chérir la vie, si ce qu'on aime était animé du même mouvement. Mais, mon Dieu, ce qu'on aime est justement fait pour faire le tourment et le désespoir d'une âme sensible. Bonjour, je veux vous voir. Vous auriez dû venir dîner avec moi chez Madame Geoffrin. Je n'osais pas vous le dire hier au soir. Oui, vous devriez m'aimer à la folie. Je n'exige rien, je pardonne tout, et je n'ai jamais un mouvement d'humeur, mon ami. Je suis parfaite, car je vous aime en perfection.